Parlons char avec Benoît Charrette.
Alors Benoît s'en va dans quelques heures au salon de Tokyo. C'est un gros salon.
C'est un des gros salons. En fait, il y a 5 grands salons dans le monde. Tokyo est aux 2 ans, les années paires, avec Francfort. Donc, Francfort est en septembre, Tokyo est en octobre. Les années, j'ai dit impair, c'est-à-dire 17, 19, 21. Les années paires, c'est Paris. Et les deux autres grands salons qu'il y avait, c'est Détroit, qui n'est plus en janvier, qui va revenir en juin à partir de cette année, et Genève, en mars.
D'ailleurs, c'est peut-être mieux de mettre le salon de Détroit en juin plutôt qu'en janvier. C'est un peu déprimant, là, Détroit, en janvier.
Bien, en fait, je suis allé 26 ans de suite en janvier, sauf que là, depuis quelques années, c'est le Consumer Electronics Show qui vole littéralement... À Las Vegas, et coupe l'herbe sous le pied à Détroit. Et là, on a dû agir parce que les constructeurs avaient littéralement déserté le salon. Et là, on va refaire ça en juin avec des activités à l'extérieur. J'ai bien hâte de voir. On sera là en juin prochain.
J'ai écarté ma feuille de route. Oui. Alors, je te laisse aller. C'est
pas
toi
de problème.
Qui guide ta chronique.
Cette semaine, on a eu une présentation d'une nouvelle compagnie qui va arriver bientôt sur la route, le Polestar. Polestar, c'est la division de luxe de Volvo. Là, vous allez me dire, Volvo est déjà une compagnie de luxe, alors c'est...
Saab? Non, ça n'a rien à voir.
Saab, c'est à Trollhättan. C'est une compagnie suédoise, mais qui n'existe plus. En fait, Polestar, c'est la propriété conjointe de Volvo Car et de Geely. Geely, qui est le propriétaire de Volvo. Et on va fabriquer des voitures uniquement hybrides branchables ou 100% électriques. Là, on a présenté cette semaine la Polestar 2. Donc, il y a la Polestar 1.
Et ça a l'air de quoi, la Polestar 2?
En fait, c'est sur une base travaillée de l'utilitaire XC40, mais c'est une voiture. C'est une 5 portes. En termes de format, on va aller concurrencer la Tesla 3, pour vous donner une idée où on se situe.
Encore pour les riches.
Le prix de base a été annoncé, 69 900 $ canadiens. On va avoir 440 km d'autonomie. Donc, c'est une voiture qui est 100% électrique. Et, chose intéressante, on fait un peu comme Tesla, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de concession automobile. Ça va être une boutique qui va être au centre-ville, détenue par le groupe Parkway.
On va en avoir une ici
On va en
Québec.
Avoir une, en fait, la première en Amérique du Nord a été annoncée, donc c'est à Montréal.
La Polestar.
La Polestar, ça va être une boutique. Polestar, il va y avoir 2 autres boutiques, une à Toronto, une à Vancouver, qui vont arriver d'ici l'été prochain. On peut déjà, au moment où on se parle, aller sur le site de Polestar, sur polestar.com, et passer sa commande, dépôt de 1 500 $. Puis on va avoir sa voiture quelque part à la fin du printemps prochain.
Elle est très belle, la voiture, en tout cas. Je l'ai devant les yeux, je viens de la googler.
Puis là, j'ai un petit texte de prête que je vais mettre sur mon site tantôt, là, le benoîtcharrette.com, si vous voulez aller voir. On parle de performances, évidemment, qui sont intéressantes parce que c'est un modèle électrique. On est capable de faire le 0-100 km/h en 4,7 secondes. L'espace dans le véhicule est très bien. Il n'y a pas d'option, c'est-à-dire qu'à 69 900, vous avez tout.
J'espère.
Il y a un groupe performance dont on n'a pas encore annoncé le prix qui va avoir des amortisseurs un peu plus fermes, des freins Brembo, des jantes forgées en aluminium de 20 pouces.
C'est vrai que c'est une belle voiture, par exemple.
C'est une très belle voiture. Donc, on va voir, évidemment... On n'ira pas dans des ventes à n'en plus finir. Ça va être un modèle qui va être à tirage limité. La Polestar 1, elle, va être encore plus chère. Ça va être un hybride branchable, donc avec une autonomie électrique, mais un moteur à essence aussi, qui va être au-delà des 100 000 $.
Oh my God.
Et on va avoir l'année prochaine. On n'a pas encore annoncé de date précise, mais une Polestar 3, qui va être un véhicule utilitaire. Donc, probablement basé sur ce qu'à peu près dans le format sur la Polestar 2.
Un peu comme l'utilitaire Tesla?
Oui, mais moins cher. L'utilitaire, le modèle X.
Le VUS est cher.
Oui, ben il est 185 000, puis là, on n'a pas tout à ce prix-là. Là. Alors là, tranquillement, ce qu'on commence à voir, par contre, dans les véhicules électriques, on démocratise un peu. C'est-à-dire que là, il y a plus de... on arrive à des prix... Bon, je prends la Nissan Leaf. Plus, oui. Qui est probablement le modèle électrique le plus abordable sur le marché en ce moment. On est sous les 40 000 $.
C'est pas la Bolt?
La Bolt est 40... attendez que je me trompe. 44 et 51, dépendamment
du modèle. OK, donc c'est un peu
modèle.
Plus cher que la Leaf.
Un petit peu plus cher. Mais bon, on parle... Parce qu'on a déjà beaucoup abaissé le prix des batteries. Sauf que là, on a une meilleure autonomie. Donc, on a plus de batterie. Fait que pour le même prix qu'avant, vous avez plus d'autonomie. On n'a pas vraiment baissé le prix, mais on a ajouté de l'autonomie pour le même prix. On en est là en ce moment.
François conduit une hybride.
Oui, une Volt, en fait, qui est une voiture électrique aussi considérée une voiture électrique. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, Benoît, c'est qu'il me semble que c'est dans la pluralité qu'ils vont aller chercher le plus de profit. Pourquoi ils ne baissent pas enfin les prix pour que ça s'adresse
parce que
à une plus grande masse?
Ça coûte encore cher à fabriquer. Ouais. Le problème est là pour le moment. Même Tesla, là, qui vend des voitures à un rythme où ils sont même pas capables de les fabriquer, ne font pas encore d'argent. Ils perdent encore de l'argent pour tous les modèles qu'ils vendent. Et la plupart des constructeurs sont là. C'est pour ça que la disponibilité est souvent limitée dans les modèles, tout simplement, parce qu'on ne veut pas envahir le marché encore, parce qu'on ne fait pas d'argent avec les modèles.
Et Benoît, c'est là que ça passe sous sa case. C'est-à-dire qu'on est dans l'antichambre, on n'est pas loin, on est où là? Sur la frontière d'une nouvelle génération qui va s'imposer, d'elle-même.
Bien, en fait, au Québec, on a maintenant la conscience écologique. On est maintenant à choisir des véhicules plus verts. Moi, je parle à des gens, mon père le premier, qui pense s'acheter un véhicule hybride branchable comme prochain véhicule. Puis on s'entend, là, c'est la génération des boomers. C'est pas ces gens-là qui devraient être les premiers intéressés.
Ça devrait.
Mais il y a encore du travail à faire à beaucoup d'endroits.
Mais quand ce sera cette génération-là, je pense que tout le monde va y avoir passé à ce moment-là et ce sera automatique.
Exactement.
Et là, effectivement, probablement qu'avec la masse, le nombre et la technologie qui s'améliore, parce qu'on travaille sur des meilleures piles, des piles solides qui vont coûter moins cher, qui vont être moins d'entretien, on va finir par arriver avec des prix qui vont s'approcher tranquillement du prix des véhicules à essence ordinaire.
Et n'oubliez pas, mesdames, messieurs, que c'est un peu comme à l'époque du cheval. Le cheval, ça lui prenait de la nourriture et de l'eau quand il s'arrêtait au ranch.
Exact.
Donc, pour les véhicules automobiles, c'est la même chose, les véhicules électriques. Il faudra que, là où vous habitez, on ait une possibilité de brancher votre voiture.
Puis c'est ce qu'on est en faire en ce moment. On développe le réseau de bornes de recharge.
C'est là.
Puis on les voit apparaître là, tranquillement. Moi, bon, j'étais en fin de semaine à Offord et on a installé des bornes de recharge. Il y en a une à ma caisse populaire, littéralement dans le village où je suis.
Oui, mais,
et,
mais
on commence
mais Benoît,
ça, tranquillement.
Mettons que tu habites dans un logement, dans un appartement, un condominium.
Bon.
Et puis que ton stationnement est à l'intérieur ou à l'extérieur. Il faudrait qu'à proximité de ton véhicule, tu as une possibilité de recharge.
On travaille sur des recharges par induction en ce moment. Ah. Il y a des expériences qui sont faites, qui se sont avérées concluantes.
Un peu comme nos poils sur la cuisine.
Voilà.
Par
et
induction.
On travaille même du côté de certaines instances américaines sur des autoroutes par induction. C'est-à-dire que les voitures pourraient recharger en roulant. Donc, ça pourrait être... il y a énormément de recherches qui se fait.
Wow.
Ça serait intéressant parce que là, tu roules, puis tu as une portion de, je sais pas moi, 50 km d'autoroute.
Tu viens régler ton problème.
Tu recharges en roulant, puis t'es bon pour faire un autre 150, 200 km.
On fait une pause, on revient avec Benoît Charrette et après ça, on doit le libérer parce qu'il s'en va. Et c'est le deuxième volet de la chronique de Benoît.
Oui. Paul, on veut quelques... Un petit mot sur Tokyo parce qu'on s'en va voir ce qu'on attend là-bas. On parlait de véhicules électriques. D'ailleurs, je réponds à une question d'un auditeur qui a appelé de Fred. Il demandait si les bornes de recharge sont les mêmes au Canada et aux États-Unis. La réponse est oui, à part Tesla. Tesla ont leur propre système de bornes de charge parce que c'est Tesla qui a assez frais mis le réseau de recharge, ce qu'on appelle les superchargers, c'est-à-dire des recharges rapides, pour les propriétaires de Tesla.
Mais quand vous avez une Tesla, vous avez une application sur votre téléphone qu'on peut télécharger et qui vous indique exactement...
Où sont les bornes.
Ouais.
Il y a plusieurs systèmes, plusieurs applications qui vont vous donner ça pour les autres bornes aussi. Même souvent, c'est inclus. C'est-à-dire que j'ai eu il y a quelques semaines un véhicule et dans la navigation, on fait même la navigation... selon le trajet que vous pouvez faire en fonction de la charge que vous avez avec vos batteries. Alors, sinon, on va vous dire à 12 km à telle place, il y a une borne de recharge. Puis on peut même vous dire si la borne est occupée ou non.
Le gros luxe.
On s'en vient là. On démocratise de plus en plus le luxe.
Absolument, on n'a pas le choix.
Et du côté de Tokyo, on va justement aller voir un certain nombre de véhicules électriques qui s'en viennent. Mazda va présenter son premier véhicule 100% électrique qu'on attend pour l'an prochain ici. En fait, ironiquement, je suis allé essayer en Europe le moteur électrique, mais qui était dans un mulet. C'est-à-dire que c'est pas le véhicule qui allait être le véhicule qui va recevoir ce moteur-là. Là, on s'en va le voir, ce véhicule-là, à Tokyo. On va nous le présenter.
Le Mazda.
Un Mazda.
Qui serait quoi? Un espèce de concurrent de...
On parle d'un petit utilitaire. Personne ne l'a vu, là. Je fais de la spéculation, mais c'est probablement un petit utilitaire, un peu plus petit. Moi, ce qu'on avait essayé, c'est le CX-30.
Mais ce serait quoi, un concurrent du Nissan Leaf?
Mitsubishi.
Ça va être plus proche d'un utilitaire, c'est-à-dire comme un Mitsubishi Eclipse Cross ou RVR en termes de format. On attend ça du côté de Mazda. On va avoir aussi le Mirai, le Toyota, qui est un véhicule à hydrogène. On va présenter une deuxième génération de ce véhicule-là parce qu'il est déjà en vente au Japon, en Californie et il y en a au Québec, mais uniquement pour des fins commerciales. On ne peut pas, comme personne, comme citoyen...
On peut pas acheter ça.
Pas encore. Il n'y a pas d'hydrogène. C'est ça le problème. Les stations de charge à hydrogène au Québec, il y en a une à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis il va en avoir une à Québec. Qu'on a annoncé qu'il va ouvrir quelque part là vers la fin de l'année ou au printemps, puis une à Montréal pour l'an prochain. Donc, il n'y a pas encore de réseau établi.
Ça va prendre du temps, ça. Un réseau d'hydrogène.
Ben là, c'est ça. En fait, là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'impliquer les pétrolières. C'est-à-dire qu'au lieu de refaire un réseau parallèle à celui de l'essence, on pourrait avoir un arrêt où il y aurait de l'électrique, de l'hydrogène, de l'essence.
On va pouvoir ressortir notre dirigeable, Paul.
Oui, mais c'est dangereux, l'hydrogène.
Les
zeppelins.
C'est tout rasé-plein.
Non, mais c'est très explosif.
Oui.
Mais attention, là. Oui, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'hydrogène est contrôlé. On a les modèles à hydrogène qui roulent. D'ailleurs, on en a fait hydrogène liquide qui enlevait l'explosion de l'équation. Mais les réservoirs pressurisés qu'on a aujourd'hui ont été testés et ce n'est pas une bombe
non,
bâche.
Non, non, comme l'étaient les dirigeables de l'époque.
Oui, absolument.
Il y en a qui ont brûlé, évidemment. Le fameux dirigeable allemand qui avait brûlé à Lakehurst au New Jersey, ça s'enflammait à rien.
Ah oui, absolument.
Mais là, non, aujourd'hui, là, si jamais un jour vous allez en Californie, vous allez voir sans doute dans le ciel le dirigeable Goodyear.
Oui.
Ben, c'est pas à l'hydrogène.
Non, absolument. C'est à l'hélium aujourd'hui. Ouais. Là, c'est beaucoup plus sécuritaire. Donc, pas ça, quatrième génération d'Honda Fit qu'on attend. Puis Mitsubishi va aussi présenter un véhicule électrique.
La Honda Fit, pas crevable.
Ah oui, ben, t'en as eu une, toi.
J'en ai eu une. Et puis, je dois admettre, d'abord, premièrement, sa consommation était extraordinaire.
Oui.
C'était pas un véhicule hybride, c'était pas l'électrique, mais c'était formidable. Et dans le temps, la Honda Fit, si vous aviez une autocaravane, vous pouviez la tirer.
Oui, absolument.
Il n'en reste plus beaucoup de voitures que vous pouvez comme
non,
ça
tirer. Non, il faut s'informer parce que ce n'est pas toutes les voitures qu'on peut mettre derrière en roue libre. On s'entend, il y en a qu'on peut mettre...
La Smart, je mettais dans mes poches.
Oui.
Oui, la Smart, effectivement, j'en ai vu. Parmi les véhicules tractables.
Exact, qu'on peut utiliser.
Alors, Benoît, on vous souhaite un bon voyage à Tokyo.
Et on va se parler vendredi. Je serai encore du côté du Japon. On se fera un petit...
On va faire un pré-enregistrement.
Un pré-enregistrement, puis je vous ferai un petit résumé du salon, puis ce que j'ai vu du côté de Mazda, parce que je m'en vais faire un petit tour chez Mazda Hiroshima par la suite. On va aller voir quelques nouveautés. Je serai probablement en mesure de vous en parler.
Et Valérie, on va bien conclure cette chronique de Benoît aujourd'hui.
On n'a pas tous la chance de se rendre à Tokyo.
Non.
Mais il y a un salon du véhicule électrique qui va se passer à Saint-Hyacinthe, au centre BMO. Ça va se passer les 25, 26 et 27 octobre prochains. Il y a 15 manufacturiers qui seront sur place. Vous allez pouvoir essayer des véhicules gratuitement, mais il y a aussi des vélos, des bateaux, des motos. Et donc, si vous vous inscrivez sur le 985fm.ca, vous pourriez gagner 4 billets. Et félicitations à Sylvain Dubé de Mascouche qui, lui, a déjà gagné ses billets.
Et 15 fabricants, vous allez avoir un bel éventail.
Ouais, ben oui, c'est bien fait du côté de Saint-Hyacinthe. Puis le nouveau centre de congrès est assez grand. Alors, non, ça va être un beau salon. J'y étais l'an dernier. Là. Évidemment, je ne serai pas là, mais je vais prendre des notes et on va me faire rapport.
Merci beaucoup,
Benoît.
Merci à tout le monde. Bon voyage. Au retour.
Okinawa.